Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Crabier. Donc, bienvenue à Bordeaux. Merci de vous être déplacé à Bordeaux et de venir à la rencontre donc, de votre public, de votre lectorat. Et alors, monsieur Crabier est aujourd'hui parmi nous sans le docteur Tixier. Il va nous expliquer pourquoi, peut-être, parce que ce livre a été écrit donc, à deux. Ce livre, Les abus affectifs, qui fait suite à une longue série d'ouvrages du docteur Tixier qui porte sur la boulimie, sur la sexologie, sur l'anorexie, sur la folie aussi, la folie ordinaire, comme il dit. Enfin, un ouvrage sur la psychanalyse d'urgence qui a été publié chez Erol en 2009. Et donc, cet ouvrage, aujourd'hui, réunit deux auteurs dont nous avons l'un d'entre eux ce soir avec nous, Stéphane Crabier. Alors, quant à Gérard Tixier, donc, il est bien connu puisqu'il a beaucoup publié. Et il est absent, mais je vais en dire deux mots puisque, justement, il n'est pas là pour rétablir peut-être votre curiosité quant aux deux auteurs. Donc, Gérard Tixier est psychiatre et il est aussi psychanalyste. Il est sexologue attaché à l'hôpital Mondor de Créteil, vice-président de l'association Urgence Psychiatrie, président de SOS Dépression, membre actif de Note Bleue qui est dédiée aux troubles du comportement alimentaire, membre de l'association Psychologie et Cancer, membre du réseau Ado Cochin, Maison de Solène, entre autres. Et donc de nombreuses publications d'ordre scientifique et médical, mais en même temps qui s'adressent au grand public pour faire un petit peu connaître tous ces troubles et aussi conseiller les patients et leurs familles, souvent les ados et leurs parents en l'occurrence. Donc voilà pour une brève présentation du docteur Tixier qui est l'un des auteurs. Et donc nous avons ce soir avec nous le deuxième auteur, le second même auteur, qui est donc Stéphane Crabier. Pouvez-vous vous présenter de même, s'il vous plaît ?
Alors, bonsoir, avant toute chose. Merci de vous être déplacé. Ensuite, on n'a pas de couronne à me tresser pour m'être déplacé, puisque j'habite à 5 km d'ici. Mais c'était gentil quand même. Voilà. C'est aussi la raison pour laquelle je suis présent et pas Gérard, puisque Gérard Tixier est à Paris. Et qu'on s'est réparti de manière parfaitement inéquitable, c'est-à-dire lui fait la communication et la promotion de ce livre à la capitale, et moi je m'occupe de la province. Voilà.
La région, on dit aujourd'hui.
Oui, mais bon, je l'ai senti comme ça, c'est la province. Ensuite, Gérard, on peut rajouter également qu'il intervient aujourd'hui à Paris, dans le 3e, à Saint-Lazare également, au-dessus de Lyon et même à Alès. Gérard est extrêmement actif. Ensuite, donc, me concernant, moi je suis donc Stéphane Crabier, je suis philosophe de formation, c'est ce qui me caractérise le plus, me détermine le plus. Ça fait aujourd'hui presque partie de mon ADN, ce sont mes outils, c'est ma formation. Philosophie et phénoménologie, mais j'ai très précocement aussi renforcé cette formation en sciences humaines par la psychologie, la psychanalyse et l'herméneutique. J'interviens aujourd'hui, moi, comme enseignant à Bordeaux 4, dans le cadre du master de coaching. Enfin, ce n'est pas coaching, c'est gestion RH, mais avec une orientation au coaching, où j'essaye de faire bénéficier aux étudiants des outils de la philosophie en matière d'accueil, d'ouverture, de respect, de dignité, de relation à la personne. Je suis en fait un expert de la philosophie de la relation. Voilà. Et j'ai été sollicité pour participer à ce livre, puisque effectivement, je me suis greffé dans un deuxième temps sur cet ouvrage. L'initiateur, c'est Gérard, puisque Gérard a trouvé que l'abus, c'était une veine féconde, c'était un fil intéressant à tirer quand on voulait prendre en charge des personnes qui étaient en souffrance, qui relevaient dans leur vie des répétitions, une tendance à revivre un peu toujours la même histoire, plutôt que d'entrer dans une prise en charge très très longue avec une anamnèse générale sur toute l'histoire de la vie, eh bien, c'était pas si mal d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait qui pouvait ressembler à, on va dire, une orientation, une disposition dans ce qui est attendu, dans ce qui est attendu, dans ce, et dans ce en quoi on répond. Voilà. Parce que l'abus, c'est ça avant tout. C'est ne pas avoir conscience de la singularité de son orientation en matière de modalité relationnelle, de ce qui nous fait marcher, en fait. Voilà. Et dont on n'a pas conscience parce que ça s'est très précocement mis en place. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés dans le cadre d'un congrès. C'était aux Assises de la sexologie à Nantes. Et quand il a vu sur mon cœur le petit badge philosophe, il m'a sauté dessus en me disant, parce que lui, ça faisait un petit moment qu'il réfléchissait à ce sujet, mais vraiment dans une perspective qui était clinique et thérapeutique. Mais justement, où là, on est dans la multiplication des cas singuliers, en fait. Je crois qu'il fallait l'émulation du travail en commun et également la violence et la rigueur du philosophe pour apporter la force de la conceptualisation, en fait. Et aussi le fait de mener la réalisation d'un ouvrage qui veut quand même être relativement complet, c'est-à-dire essayer de comprendre la racine de l'abus, les causes de l'abus, comment ça se met en place, pourquoi, sa logique, en fait, sa temporalité, son temps et sa logique. Et ensuite, le délier, le dérouler, comme ça, jusqu'à la prise de conscience, l'élucidation, et ça, une certaine forme de résolution libératrice.
Ouais. Alors,
j'ai essayé d'être un peu... Voilà.
Oui, l'avant-propos justement raconte cette anecdote de votre rencontre et comment vous avez conçu l'idée de cet attelage philosophie, psychiatrie, plus d'autres éléments que chacun apportait finalement dans le tandem. Et c'est assez amusant de voir d'où est parti cet ouvrage. En même temps, le sujet, on peut vous poser la question, pourquoi travailler sur ce sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on parle beaucoup de pervers narcissiques, on parle beaucoup de vampires affectifs? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait que vous publiez aujourd'hui un ouvrage sur ce sujet de l'abus affectif?
Alors, vraiment, je ne pense pas du tout que ce soit... D'abord, ce n'est pas une commande et ce n'est pas un effet de mode et ça ne veut pas répondre à un désir comme ça de quelque chose qui est dans l'air du temps. Parce qu'il me semble me souvenir que Gérard voulait déjà développer quelque chose sur l'abus il y a plus de 10 ans.
Mais c'est bien de le dire.
Il y a une bonne dizaine d'années. Il y a une bonne dizaine d'années. Vraiment. Et non, on n'est pas, si vous avez lu l'ouvrage, on n'est quand même pas centré sur le pervers narcissique.
Non, c'est pas notre démarche. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. En même temps, on commence à voir, grâce à cette double présentation des deux auteurs, donc un petit peu, peut-être, la patte, parce que c'est ça aussi qui est intéressant à la lecture, c'est d'essayer de deviner ou de cerner quelle est la patte de chacun. Je veux dire l'écriture, la plume hein, de chacun. Et je pense que dès le début, quand on attaque un problème par la définition du terme, on est plutôt dans le cadre de la philosophie, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'abus ? Puisqu'on a la chance de vous avoir ce soir, est-ce que vous pouvez développer Alors, il existe hein, dans l'ouvrage, hein, mais nous présenter un petit peu ce travail de définition que vous avez mené. Peut-être plus vous que le docteur Tixier, non ?
Oui, oui. Je termine juste parce que j'ai du mal à laisser une porte entrouverte. Et donc, ce sur quoi on a accroché, en fait, c'est la seule chose qui était à laquelle la philosophie aurait pu spontanément répondre. C'était la démesure sur l'abus. Et la démesure ne nous menait pas à grand-chose en matière d'abus affectif.
Oh, je trouve que vous le prenez bien, parce que justement... Non, mais je veux dire, dans l'ouvrage, vous prenez bien cette notion de dépassement, de trop. Parce que du coup, on revisite la question avec une autre vision, presque une vision géographique, presque une vision de frontières, de limites, de territoires. Ouais. Ça mène quand même très loin.
D'accord, merci. Alors, dans l'aspect d'infinitionnel, sans vous donner en fait une partie complète de l'ouvrage, Ce qui était un petit peu délicat justement à définir en matière d'abus, c'est que c'est peut-être à la fois de l'excès ou à la fois du manque. Ce qui est le plus clairement abusif, en fait, c'est le fait de ne pas avoir conscience. C'est le fait que ça passe, que c'est insidieux, en fait, que ça passe à l'as. Voilà. C'est ça. Peut-être que la racine de l'abus, c'est ça. Et également qu'il n'est pas lié à un élément concret en soi, mais qu'il est la rencontre entre, un émetteur et un récepteur. L'abus se fabrique à deux. L'abus n'est pas le fait d'un abuseur. L'abus, c'est vraiment la rencontre d'une complexion abusive, enfin, parce qu'elle permet en tout cas qu'on s'abuse sur elle, et d'un abusé qui va réussir à se faire du mal, on va dire, sur ce que propose comme modalité relationnelle l'abuseur. Je sais pas si c'est...
Oui.
J'essaye de contracter beaucoup, mais...
Oui, c'est-à-dire, on voit bien la complexité du problème, et vous creusez justement cette espèce d'image toute faite du patient et de l'agent, du bourreau et de la victime. C'est pas si simple, enfin, c'est facile de dire ça, mais c'est quand même là que les analyses sont les plus intéressantes, c'est pour cerner dans quelle mesure, justement, on fait ça à deux.
Oui.
Et donc, vous vous appuyez sur des cas précis.
Ben, autant que faire se peut, on essaie d'illustrer avec des cas cliniques, mais on essaie quand même de décortiquer, d'expliciter ce qui, dans la nature humaine, favorise en fait la relation abusive. Parce que au départ, même, on pensait que en réfléchissant aux abus affectifs, l'abus allait être l'exception. Voilà. Et en fait, quand on rentre dans le détail, dans le mécanisme, on s'aperçoit que à des degrés divers, l'abus est plutôt la norme. Voilà. C'est plutôt la norme de par la spécificité de la nature humaine. C'est là, en fait, que la philosophie a bien, bien matché aussi. C'est quand on s'est rapidement rendu compte en grattant et en reprenant on ne s'est pas non plus, à certains endroits, écarté, on va dire, de grandes théories qui sont éclairantes, comme la théorie de l'attachement. Mais quelque part, on la complète, on la détaille, on la complète, on met un peu plus de lumière sur une partie. Et en l'occurrence, c'est sur la partie qui est de la constitution de l'identité d'un être humain, qui est, la convergence, la combinatoire d'une quantité d'influences. Les influences qui sont relationnelles, qui sont les influences parentales, avec la manière dont on aime, la manière dont on communique, la manière dont on les valeurs que l'on a, voilà, et qui sont tellement précocement reçues que elles ne sont pas critiquées, elles ne peuvent pas être critiquées. En fait, c'est là que ça devient vraiment une réflexion sur la condition humaine, c'est que on focalise sur la constitution de l'être humain au moment où il se constitue dans ce terreau qui est à la fois cognitif et affectif, et ce qui fait que nous sommes à la fois un être de nature, de culture, et très en adéquation, c'est que le petit être se structure en structurant ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit, et ce que ses parents lui communiquent volontairement et involontairement, voire ce qui va leur prendre de son inconscient à leur inconscient. Voilà. Et les parents donnent leur carte du monde. Et parfois, c'est un cadeau. L'abus, parfois, se donne sous les espèces du cadeau. C'est-à-dire, c'est la meilleure solution, la clé, la résolution, le va-tout des parents, parce que pour eux, c'est comme ça que les choses marchent entre les hommes, c'est comme ça que ça marche dans le monde. Et c'est communiqué très précocement à l'enfant. À un moment donc, où c'est pas critiqué, intégré, très précocement intégré, ça fait même partie ensuite de l'identité. Il pense même que c'est lui. C'est-à-dire qu'il va y être d'autant plus attaché qu'il est fidèle à lui-même. Beaucoup de gens disent « Non, mais je suis comme je suis, hein, on ne va pas me changer. Hein. » Il y a une forte résistance. Et c'est même valorisé, le fait de ne pas changer. C'est-à-dire qu'on est ferme, on est solide, on est digne, on se laisse pas balader. Alors que justement, cette identité à laquelle on est si farouchement attaché, elle est pétrie d'altérité, elle est le fruit d'influence. On réalise, quand on gratte un peu, qu'on aurait pu être tout autre. Et l'abus initial, fondamental, il est là. Cet endroit-là.
Est-ce qu'il y a pour autant un masque dans cette construction identitaire ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais je veux dire que ce que vous dites, quand vous dites qu'on tient énormément à cette construction identitaire, ouais. alors même qu'elle est pétrie d'altérité, enfin, ouais. je ne sais pas si c'est paradoxal d'ailleurs, mais est-ce que derrière, enfin, il y a autre chose derrière ? Autrement dit, est-ce que c'est un masque ? C'est juste.
Non. Elle est juste pas identifiée comme étant produite par ce qu'il a produite. C'est-à-dire, c'est pris comme le développement de soi, l'expression, on va dire, le développement de quelque chose de l'ordre de l'être, de son être, de soi. Et il n'y a pas de présence, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de constat, il n'y a pas de conscience du fait que ce que l'on prend comme son essence, à quoi on est donc fidèle et attaché, comme quelque chose qui serait simplement développé en soi, qui se développe et qui grandit, comme on voit se développer un petit être. Mais il n'y a pas de critique du fait que ce soi est la congruence, la combinatoire de toutes ces influences agglomérées, agglutinées, et qui, si elles avaient été différentes, auraient produit un autre soi. Voilà, c'est ça. Mais le masque, non. S'il y avait masque, il y aurait déjà cet écart. Il y aurait déjà ce recul, il y aurait déjà cette possibilité de critique. Ce qui est difficile dans l'abus, c'est qu'il n'est pas donné cet écart. Du tout. Voilà. Et justement, si nous, on trouve un espace de libération, il est dans le fait de montrer l'altérité à la source de soi et la racine de soi pour dénouer quelque chose de la fidélité à soi-même et mettre de la liberté là où il y a du déterminisme. Trouver de la place.
S'autoriser à changer, en
soi. S'autoriser à changer, absolument.
Et donc, après ce travail de définition que nous avons à peine effleuré, qui est beaucoup plus riche dans le livre « L'abus affectif de l'enfance à la vie amoureuse », vous établissez aussi une typologie, en quelque sorte, de l'abus. Est-ce que vous pouvez... pas nous déployer toutes les catégories, mais donner peut-être quelques exemples de types d'abus, de mécanismes, si vous préférez.
Disons que moi, j'ai une pensée qui est assez généalogique. Donc, j'ai un peu de mal à me repérer avec votre logique. En fait, des petits. Vous voulez que je donne quelques exemples d'illustrations.
Qu'on se repère un petit peu dans le territoire de l'abus, puisque on a vu dès le début qu'il y avait une polysémie dans l'abus.
Tout à fait.
Ça pouvait être l'excès, mais ça pouvait être aussi le manque.
Ouais.
Et puis le jeu des interrelations.
Ouais.
Et puis aussi un déroulement dans l'histoire de la personne, de l'enfance à la vie amoureuse. Comme et ça commence dans la toute petite enfance, comme vous l'avez dit aussi.
Qu'il se fabrique, qu'il est le fruit d'une rencontre, oui. Qu'il est souvent assorti de bénéfices secondaires. C'est pour ça qu'il peut se mettre en place. Alors si je peux donner un exemple, en fait, qui arrive assez précocement, c'est les enfants à qui on donne des responsabilités. C'est pour l'enfant. Parce qu'il est mature, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est responsable, parce que... il comprend ce qu'on lui dit, il est capable de réaliser des tâches et des missions, et on va les lui donner, et il va être tout à fait gratifié de ça. Le problème, c'est qu'on lui donne des tâches qui ne sont pas des tâches faites pour les enfants, qu'il exile trop précocement du temps de l'innocence et de l'insouciance de l'enfance. Lui en est très gratifié, peut-être, mais il est mis dans une tension, dans une pression, éventuellement dans des situations d'échec qui sont de nature abusive. Et ça peut se donner sous les espèces de l'amour. Hein. On peut dire, ah là là, il est super, mon gamin, il fait des trucs géniaux, etc. Voilà. C'est des mamans qui, sous couvert d'avoir une très, 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 très grande intimité avec leur fille, vont leur ouvrir un espace d'intimité qui, là aussi, les submerge, les met les jette, on va dire, dans un univers, dans une logique, dans une fantasmatique qui est adulte. Alors que. Et donc, qui les exile, en fait, qui les arrache. Et ça, c'est une violence. C'est une violence symbolique ou c'est une violence affective. Ça vous va comme type d'exemple ?
Oui, et ce que vous venez de dire reprend finalement cette métaphore du territoire, en somme, quand vous parlez d'exil.
Oui.
Et donc, ça pose la question de la frontière ou de la limite. Qui est responsable de dire où est la limite ? C'est l'adulte. Ou bien ?
La limite de quoi ?
Mais la limite d'aller trop loin ou de franchir, de sortir du monde de l'enfance, par exemple, dans l'exemple que vous venez de donner, d'arracher finalement l'enfant à son monde de l'enfance et de le transplanter, en quelque sorte, par la responsabilité trop précoce qu'on lui donne, dans un autre univers. Est-ce que la personne qui fait ça, elle se pose la question de la limite, elle connaît la limite ? Parce que l'enfant, lui,
je comprends à peu près votre logique. Bien sûr que, très normalement, ce serait de la tâche, du devoir même de l'adulte, d'être dans la protection. Puisque l'enfant, lui, au contraire, va... celui qui est dans l'amour inconditionné, il y a tout un passage où on interroge les figures de l'amour et les mises en tension de relations affectives en relation avec l'amour. Et c'est très important. Et là aussi, c'est engrammé très précocement parce que c'est une histoire de vie et de mort, initialement, que d'être capable d'initier un lien d'attachement et de soins et de sollicitude pour attirer la sollicitude des parents et être capable d'attirer l'amour des parents, c'est très important. Mais classiquement, on va dire que c'est l'amour de la maman qui est inconditionnel. C'est les mamans qui vont aller voir leurs enfants multimeurtriers en prison. Il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre et supporter et pardonner ça. Dans le détail, l'amour inconditionnel, véritablement, on le trouve chez l'enfant et uniquement du côté de l'enfant. Il y a des parents qui sont tout à fait dans l'évaluation, dans la cotation des enfants, font des différences, sont pas du tout dans cette absence de limite. Donc l'enfant, lui, c'est pas lui qui va mettre la limite. C'est pas son boulot non plus.
Voilà. Et puis tout ce qui vient des parents lui paraît au-dessus de tout jugement. Enfin, étranger même à tout jugement.
Ah, oui. Ah, mais c'est une des racines également de l'abus, tant affectif que cognitif. C'est que ce qui émane des parents, que ce soit en matière d'exemple ou de discours, là encore, n'est pas critiqué. Non seulement c'est pris pour vrai, mais c'est pris pour vrai dégagé de toute singularisation. C'est-à-dire, c'est pas la super bonne réponse des parents. C'est vrai.
Normal, oui.
C'est vrai. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. C'est-à-dire, le transfert, c'est l'universalisation.
Oui.
Une des premières causes, structurale, théorique de l'abus, c'est vraiment le passage, la prise du singulier pour de l'universel.
Oui.
Et ce transfert-là.
Parce que l'enfant,
c'est ce qui va être attendu.
Parce que l'enfant est dans l'apprentissage. Enfin, ce que vous dites me fait vraiment penser à l'apprentissage de la langue, parce que l'enfant progresse par hypercorrection. Il croit que tel emploi est la norme, donc il le généralise. Et puis petit à petit, il s'aperçoit que non, il y a des nuances, il y a des exceptions, mais il faut tout un parcours. Et je pense que c'est un peu... on peut comparer ce développement de l'enfant dans le cadre familial ou des interrelations par ces mécanismes d'apprentissage qu'on peut vérifier dans toutes sortes de domaines.
Tout à fait. Et si la relation aux parents est une relation de modèle où ils servent d'étayage et ils permettent de béquiller un peu le démarrage dans la vie, si ce n'est pas trop pesant et si ensuite on peut changer d'outils, de posture et de stratégie, tout va bien. On récupère une autonomie, une latitude, une liberté et on n'est pas dans le développement de la répétition de quelque chose d'abusif. Mais malheureusement, le plus souvent, on est dans la reproduction. C'est-à-dire, il y a une fidélité aussi, il y a une adhésion, il y a une foi, il y a une croyance dans ce que nous avons intégré précocement. C'est tout bonnement la seule chose qui existe. Non seulement c'est vrai, mais en plus, c'est la seule chose qui vaille. Quoi.
Et donc, il n'y a pas de raison de désétayer, et donc, il n'y a pas d'autonomie.
Alors, il n'y a pas de raison de désétayer. Comment ça ?
Même puisque vous dites que ça peut être par amour que l'étayage s'installe, mais le problème, c'est qu'il se répète et qu'il s'installe réellement, alors qu'il devrait se désétayer.
C'est ça qui le rend justement aussi solide. Si vous mettez exactement le doigt là où il faut. C'est que là où ça fait la soudure, c'est l'amour. C'est qu'effectivement, pourquoi on parle d'abus affectif ? Parce que c'est toujours sur fond et sur horizon d'amour. C'est-à-dire, c'est toujours avec désir de solliciter l'amour des parents, peur de perdre l'amour des parents, besoin d'être validé par l'amour des parents. Et tout ça va déterminer la conduite. Et un enfant est tout à fait capable d'orienter ses stratégies, ses postures, en fonction de ce qu'il ressent, des attentes, de la sensibilité des parents. C'est très marquant dans les bacs à sable. Il y a des enfants qui vont développer des stratégies qui seront un petit peu pugnaces, parce que les parents aiment bien que leurs enfants s'affirment un peu, ils soient capables de se défendre face aux autres, face à l'adversité, et d'autres qui, au contraire, ne vont soutenir que des enfants qui se plaignent, qui viennent donner l'alerte, qui sont en posture basse. Et cette posture se met très, très précocement en place. C'est l'amour. Mais justement, ça, c'est très, très universel. Et c'est ce qui nous a amené à chercher qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir d'universel également dans le développement humain, parce que ça n'aurait pas pu tenir. Notre travail n'aurait pas tenu le coup, puisqu'on en arrivait quand même à mettre en évidence que l'abus affectif, c'était la norme. C'est ce qui, quelque part, nous étions des humains par animalité contrariée de façon abusive. En fait, c'est ça. On passait de l'animalité à la culture. En étant contrarié par quelque chose d'un peu abusif qui structure, qui oriente, qui détermine. Après, c'est plus ou moins stable. Et il fallait, comme c'était universel, qu'on trouve quelque chose d'assez universel. On l'a plutôt trouvé dans la phase de la crise d'adolescence.
Oui.
Où là, effectivement, on sent bien qu'il y a à la fois de l'affection, que ça tente à être secoué, plus ou moins déboulonné, et où les gamins, là, s'autorisent à changer de paradigme. Il n'y a plus seulement que le point de vue, les valeurs, les grilles d'évaluation des parents qui vaillent. Ce que pensent les pères vaut aussi, voire vaut, plus c'est mieux. Voilà. Et donc c'est une phase massive, on va dire, de libération, cette phase-là.
S'opposer en s'opposant. Et donc, on a un petit peu effleuré là encore, hein, très très vite, mais pour vous donner un aperçu et une envie de lire bien sûr l'ensemble de l'ouvrage en détail, parce qu'il est très touffu, très riche, hein, et très dense. Donc, après ce parcours de la naissance presque à l'adolescence, vient le temps amoureux. Et vous étudiez aussi, c'est très très intéressant, bien sûr, l'abus affectif dans le couple. Et là, il y a une particularité peut-être, c'est que justement, dit-on, les deux composantes du couple sont égales, sauf que il y a tous les cas de figure possibles finalement. Des inégalités, des dominations, des vengeances presque, ou des compensations, ou des surcompensations. Et donc tous ces mécanismes qui sont presque d'amour-haine, quand on lit ces passages, ça évoque forcément des souvenirs personnels ou des cas précis dans son entourage, quoi, tellement c'est vrai.
Bien sûr. Mais en fait, le passage, là aussi, pour nous, c'est à l'analyse et à la réflexion et à l'observation, que ce soit d'ailleurs du point de vue du développement théorique ou de l'observation clinique, on voyait bien qu'il y avait un passage entre la relation et la texture ou la tessiture de la relation d'amour aux parents, et il y avait quelque chose de différent dans la relation d'amour, hein, qui nous lie à un autre être humain, qui soit du même sexe ou d'un autre sexe. C'est-à-dire que les parents nous aiment, mais globalement, c'est un peu leur devoir, c'est un peu leur boulot. Quand ils ne nous aiment pas, ils devraient s'en sentir coupables. Quelque part, ils n'ont pas cette capacité de valider notre existence, parce que ils nous ont eus, c'est eux qui nous ont fait. Alors que quand on rencontre un autre être humain autonome, lui a cette mission et cette fonction de valider notre existence. Ouais. Et c'est ce qui fait aussi toute la crucialité et tout l'enjeu. Par contre, persiste toujours en filigrane et en fond nos déterminations, c'est-à-dire cette fameuse inclinaison abusive. C'est-à-dire ce à quoi on va répondre, ce à quoi on va marcher, qui dépend toujours des empreintes très, très précoces. Ce qui fait qu'à l'examen, les couples fonctionnent beaucoup par rencontre des abus, par enchâssement des abus. C'est quand les abus se répondent bien, se marient bien, s'associent bien, ça tient très, très bien, et vraiment très, très bien. Et même en psychiatrie, d'ailleurs, on connaît des figures de couple ultra stables, parce qu'ils répondent à deux conformations très, très marquées.
Et quand ça ne tient pas, d'où aussi la répétition, quand on a l'impression d'être abonné finalement aux mêmes histoires, ce n'est pas par hasard.
Du tout. C'est qu'on voit bien que ça... Alors, on voit bien non seulement que ça ne tient pas qu'à la diversité du monde. Mais c'est vrai qu'on retrouve toujours, et on arrive à affirmer des choses universelles sur l'autre sexe, les hommes tous des ceci ou tous des cela, ou les femmes toutes des ceci, toutes des cela. Mais ce n'est pas seulement tous les hommes ou toutes les femmes. C'est que ceux ou celles avec qui on va s'associer ont toujours les mêmes déterminations, toujours les mêmes profils, et on va les engager, d'ailleurs avec plus ou moins de force, plus ou moins de temps, dans les mêmes modalités relationnelles qu'on va vivre. Donc, même si elles nous font souffrir.
Oui, exactement. Et il y a beaucoup de souffrance dans ces cas.
Mais ça a le goût de ce que l'on connaît et de ce que l'on a connu très précocement. Alors, pour donner un ordre d'idée de l'attachement à ce qui a été vécu très précocement, on a... Alors, c'est un exemple qui est pris dans l'éthologie. Hein, c'est que des petits bébés souris qu'on a exposés à ce qui est le plus répulsif dans la nature, c'est la cadavérine, l'odeur de la mort. Eh bien, si on les expose à l'odeur de la cadavérine en les inondant d'hormones de leur maman quand ils sont tout petits, ensuite, ils vont trouver ça super toute leur vie. Voilà. Et on est capable de rechercher quelque chose qui nous fait souffrir et qui nous fait mal, de le rechercher avec plaisir toute notre vie, de trouver qu'en plus, ça a le goût du paradis initial, alors que ça nous détruit. Voilà. Ça, c'est une des structures de l'abus.
Et donc, quand vous décrivez dans le chapitre des mécanismes le fonctionnement que vous venez très très brièvement de nous résumer, on se pose la question, mais alors est-ce que c'est déterminé? Est-ce que c'est une fatalité?
Alors, le mécanisme, oui. Mais justement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance de réaliser à quel point notre identité est pétrie d'altérité. C'est-à-dire que nous aurions pu être quelqu'un d'autre. Et ça, certes, nous aurions pu en amont être quelqu'un d'autre, mais le fait même de le savoir nous permet de... Alors, ce n'est pas facile pour autant. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le vouloir pour que ça advienne. Mais au moins, ça ouvre la brèche à s'autoriser à. C'est-à-dire, pas simplement continuer de dérouler dans sa vie ce qui va s'y poser spontanément et naturellement, mais accepter de le confronter à ce à quoi on a envie que sa vie ressemble véritablement. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place comme relation, comme type de relation, comme type de regard, comme type d'échange, comme type de tendresse, comme type d'amour? Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Voilà. Donc de se choisir. Et à ce titre-là, oui, on met de la latitude, on met de la liberté. Mais ça va être sous le sceau de la trahison. Parce que ça sera la trahison à la fois vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ce que l'on a connu, de ce qui nous a formés et de soi-même. Mais il faut accepter, pour se choisir, il faut accepter de se trahir quelque part.
Ça repose la question tout à l'heure sur l'ego et le moi. Enfin, bon, ça c'est une question qu'on rencontre souvent dans des ouvrages de vulgarisation, de développement personnel et autres. Mais ce n'est pas du tout le champ que vous avez choisi d'adopter. Et donc, les conséquences de l'abus, on commence à y voir un petit peu plus clair, puisque... Elles sont de fermeture et de rigidification,
oui,
finalement.
Tout à fait. Hein,
donc, est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous parler des séquelles qui donnent à la vie vraiment une teinte de souffrance telle que vous pouvez en arriver à des patients en milieu clinique, que vous pouvez rencontrer dans le soin? Qui ne vivent pas avec ou qui vivent très mal, tellement mal qu'ils vont consulter.
Là, on est quand même dans une interrogation du relationnel. Hein. Parce que c'est peut-être qu'il aurait fallu que je le précise. Ça a été un des pièges, d'ailleurs. Et vous m'avez tendu cette perche au départ, je ne l'ai pas bien saisi sur l'abus. Oui. Parce que dans l'association d'esprit la plus commune sur abus et abus sexuels, c'est quelque chose qui est purement transgressif, qui se voit, qui est un acte répréhensible. Ce n'est pas du tout notre propos. Nous, on est vraiment sur de l'insidieux. Et donc, je ne peux pas dire qu'il y ait des cas cliniques de gens qui... Là, ce dont vous me parlez me fait plus penser à des cas traumatiques
oui,
où on aurait eu affaire à des éléments objectifs, parfaitement visibles, nets, caractérisés, massifs. Non, nous parlons bien de choses qui sont imperceptibles, insidieuses, par contre, dont les retentissements sont sans commune mesure avec les moyens mis en œuvre. Voilà, oui. C'est ça. Les retentissements et les effets sur la vie... peuvent être extrêmement importants alors qu'il n'y a pas eu d'intention, il n'y a pas eu d'abuseur avec volonté d'abuseur qui profite ou qui fasse souffrir, il n'y a pas eu d'acte caractérisé, mais ça s'est engrainé, enchaîné, et ça a orienté, déterminé la vie. Oui. Ça peut être un regard, ça peut être... Il y a des choses qui sont tout à fait imperceptibles. C'est ce qui rend... dans l'abus, il y a cette notion de glissement, de transgression sur laquelle on a du mal à mettre le doigt.
Et un mot aussi. Et mettre un mot. L'intérêt du livre aussi, c'est de mettre des mots. Et ça se sent dès le début, puisque ce travail de définition, encore une fois, s'attache aux mots, à la notion du brise, par exemple, l'arrogance, hein, l'orgueil antique. Et du coup, cette notion d'aller trop loin. Mais quand est-ce qu'on se rend compte, ou quand est-ce que l'autre se rend compte que c'est trop loin ? C'est ça qui est... Tout le problème est là, quand même.
Alors, justement, sur les notions d'aller trop loin, ce qui renvoie à de la quantité, ça a été une de nos clés.
Oui.
Et on s'est rendu compte, en fait, que le trop peu, le pas assez, n'étaient que des manières de dire, plus ou moins maladroitement, le mal. Voilà. C'est juste que... C'est pas qu'on aime trop, c'est pas qu'on aime trop peu, c'est juste qu'on aime mal. Et aimer mal, ça veut dire quelque part assouvir dans sa quête, dans son besoin d'amour, dans sa recherche de reconnaissance, dans le fait de se soigner même à cette source d'amour qui est par exemple un petit enfant, c'est perdre de vue que lui aussi a à aimer, à être aimé, à se développer. C'est-à-dire vraiment le limiter ensuite dans ses latitudes. Et tout à l'heure, quand vous parliez de rigidité, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on trouve au niveau relationnel ce qu'on trouve au niveau naturel, tissulaire. Dans la nature, un tissu qui est sain, qui va bien, qui est vivant, il est souple, il est alerte. Même la peau, si elle va bien, elle est souple, tout va bien. Quand vous la lésez, eh bien, elle va se rigidifier, elle va se fibroser. C'est cicatriciel, voilà, c'est une blessure. La santé, c'est la souplesse. Et l'abus enlève, jusqu'à l'extrême, mais enlève de la souplesse, mais relationnelle et identitaire. C'est pour ça que vraiment trouver des cas cliniques où ce dont il faudrait prendre conscience, c'est d'un abus, on va dire comme ça, constitutif. J'ai pas d'exemple. C'est plutôt une souffrance relationnelle au quotidien. Le symptôme d'une répétition où on n'arrive pas à s'épanouir, à se développer, où juste on piétine et on remarche toujours dans les mêmes ornières et dans les mêmes traces.
Mais une action répétée crée une habitude et une habitude devient un être. Oui. C'est un être, enfin une façon d'être, un mode d'être. Oui. Et du coup, il y a des symptômes. Enfin, par exemple, vous décrivez la mauvaise humeur avec un point d'interrogation comme un symptôme d'abus. Bon, c'est un passage très, très amusant, je trouve, parce qu'il est quand même très quotidien. Et si on se disait à chaque fois qu'on est soi-même de mauvaise humeur ou qu'on rencontre quelqu'un de mauvaise humeur, bon, bah, c'est un symptôme de souffrance par abus. Enfin, il y a un abus quelque part. Il y a eu, ou peut-être il s'abuse lui-même ou je m'abuse moi-même. Enfin, et ça donne un autre regard un petit peu sur tout, finalement. Toutes nos relations sont teintées, ou en demi-teinte, comme vous le dites, c'est très subtil, mais de phénomènes et de symptômes, peut-être, d'abus.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Mais on passe notre temps à être confronté à des structures abusives. Les gens qui abusent de votre temps. C'est terrifiant. Ils mangent votre vie tout le temps. Ils vous boivent, ils vous vampirisent. Bon, mais c'est strictement abusif. Et ça se met en place très, très précocement. Ah non, mais une des questions à un moment a été de développer les abus ordinaires.
Oui.
Plutôt que les abus affectifs. Oui. C'est vraiment au quotidien à quel point on est confronté dans la vie, justement, du fait qu'on n'est pas suffisamment à la fois attentif, un peu épuré, respectueux de l'autre, et vraiment de sa temporalité, de sa vie aussi. Et qu'on lui impose, nos désirs, nos rythmes, nos vues, et on le fait souffrir, et parfois aussi notre mauvaise humeur. Voilà.
Et donc, en face de ça, enfin, la mauvaise humeur de l'autre, par exemple, en face de ça, vous dites qu'il n'y a rien à tenter.
Non, c'est son problème un peu quand même.
Oui, mais en fait, du coup, on en souffre aussi.
Oui, mais c'est un peu de notre faute.
D'accord.
C'est un peu de notre faute. Je crois que c'est Valérie qui disait que en présence du roi, personne n'est de mauvaise humeur. Bah, et globalement, c'est pas faux.
Oui, c'est pas faux. Donc la santé, c'est la souplesse, mais c'est donc aussi le bonheur. Tous ces phénomènes de rigidification nuisent à notre bonheur.
En tout cas, l'épanouissement et la labilité émotionnelle. Voilà, c'est-à-dire le parce que le bonheur, être toujours dans une tonalité de bonheur, ce serait totalement abusif aussi. Oui. C'est comme un orgasme qui durerait 3h30, c'est fatigant. Donc, et puis surtout, c'est pas cohérent. Voilà. Mais par contre, c'est que ce soit ajusté. Voilà, c'est ce qu'on essaie de repérer également quand on prend en charge des troubles de l'humeur. C'est est-ce que véritablement cette tristesse, elle est corrélée à des événements de vie qui sont profondément et très normalement attristants? Ou est-ce que c'est déconnecté? C'est-à-dire, est-ce que c'est autonome? Est-ce que ça s'est autonomisé? Et est-ce que c'est une bulle, on va dire, de souffrance dans la vie de l'autre, quoi? Et pour le bonheur, c'est pareil. Le bonheur, il faut aussi qu'il soit correspondant à un état de bien-être, de santé, de réalisation. Voilà.
Alors, le quotidien, certes, c'est intéressant, puisqu'on voit bien que ces abus affectifs, ils concernent un petit peu tous les domaines, pas seulement le domaine privé, mais aussi le domaine professionnel, et peut-être même le domaine public, politique.
Tous les domaines, il n'y a pas de limite.
Ça nous ouvre beaucoup d'horizons.
Ah oui, oui.
De réflexion et d'analyse.
Oui, puisque c'est véritablement... tant qu'on ne l'a pas... examiner, tant qu'on n'en a pas suffisamment souffert pour décider de l'observer, de le prendre en charge, de se regarder, de s'observer, de se choisir et donc d'accepter, éventuellement de s'amender, de se corriger, on continue de manière, comme un papier buvard en fait, on continue de contaminer et de toucher les autres de notre vibration relationnelle et affective qui est... Encore, on va dire, trempé des sueurs et des modèles de l'enfance, quoi.
Alors vous parliez justement chez l'enfant du vrai, enfin de son sentiment du vrai, puisque tout ce qui lui arrive finalement est pris comme vrai. Mais c'est un faux vrai, puisque, enfin, dans la plupart des cas, puisqu'il y a abus général. Et du coup, pour revenir au vrai, il faut se désabuser.
Pour moi, déjà, c'est difficile de parler de vrai en tant que philosophe. Vous savez que c'est dur, dur, dur.
Je sais, mais c'est central.
Mais nous, vraiment, on parle de représentation. Et est-ce qu'on y adhère, est-ce qu'on n'y adhère pas, et connaître leur relativité, en fait. Et donc, est-ce que ça permet de toucher au vrai? Non, justement, ça permet au contraire de réaliser que le vrai, c'est rare. Le vrai, c'est vraiment rare. Il n'y a que des points de vue, il n'y a que des perspectives, il n'y a que des représentations, et que la perspective et la représentation de l'autre est tout aussi entendable, valable, écoutable que la nôtre, quoi. Au contraire, oui. À la limite, ce serait une diminution, en tout cas, des zones de vérité.
Oui. Oui. Mais vous développez aussi, dès le début, un autre fil dans la polysémie du terme abus. C'est on est abusé, donc on nous trompe. On nous ment.
Oui. Hein,
abuser quelqu'un, c'est tromper quelqu'un, oui. Mentir à quelqu'un. Oui. Donc c'est quand même aussi tout le temps cette dialectique du vrai et du mensonge.
Tout à fait. Mais en tout cas, c'est le fait d'accroire une proposition de l'autre. Mais là aussi, c'est-à-dire on va adhérer à une représentation, on va intégrer une représentation avec foi. C'est-à-dire il ne va pas y avoir cette distance qu'il y a justement, qu'il devrait toujours y avoir. À l'égard des représentations, c'est qu'on pense que c'est la retranscription fidèle ou d'un événement ou d'un fait ou d'une relation, voilà. Que ça dit le vrai, alors que ce n'est qu'une proposition. Mmh. Oui, et le fait d'y croire, c'est fondamentalement là aussi une des racines de l'abus.
Très bien. Alors vous voyez qu'il y a énormément de pistes de réflexion et d'éléments qui nous renvoient à notre propre vie, à notre société aussi, dans ce livre, donc les abus affectifs au pluriel. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à vous y plonger. C'est à la fois très plaisant et très nourrissant. Donc merci beaucoup Stéphane Crabier d'être avec nous ce soir, et merci à tous les deux, donc avec le docteur Tixier, d'avoir rédigé cet ouvrage très très intéressant. Merci, bonne soirée.
Merci à vous, merci beaucoup.